Donc, nous disions Matthieu au chapitre 16. Et on a lu le chapitre au complet tantôt dans la symphonie de la prière. Puis là, on va lire les versets 13 à 16 pour commencer. Ensuite, on va lire un peu plus d'autres versets quand on va être rendu au premier point. Mais juste pour s'introduire ici, et avant de le lire, je vous rappelle que dans Matthieu, ici, c'est le point tournant du ministère de Jésus. J'ai expliqué plus en détail tantôt, mais il y a vraiment cette idée où est-ce que Jésus passe d'enseigner qui il est. Pour ça qu'il demande la question « Qui dites-vous que je suis? » Puis après ça, il se met à parler de ce qu'il est venu faire, sa mission, la croix. Et donc, c'est un moment très important dans la vie de Jésus, dans son ministère terrestre. Et c'est un point tournant, non seulement pour lui, ses disciples, mais Pierre, qu'on va considérer ensemble aujourd'hui. Donc, on lit ici au verset 13, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Seigneur, merci qu'on te connaît ici, chacun de tes enfants, dans nos cœurs, en esprit, en vérité. Et on dit amen à ce que Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Merci que tu nous as révélé qui tu es. Mais merci que c'est plus que ça dans nos vies. Tu veux aussi nous révéler tes voies, ton œuvre, la croix et tout ce qui est impliqué là-dedans. Donc, Seigneur, on veut accepter absolument tout ce qui vient de toi. La couronne et la croix, les choses qu'on aime, celles qu'on a de la misère à accepter. On vient à toi humblement ce matin pour être enseigné de toi, mais aussi, Seigneur, pour recevoir ce que tu as décidé de nous donner ici à chacun, et aussi en tant qu'Église. On est ouvert, Seigneur, à tout ce que tu as pour nous. On veut le recevoir par la foi et le vivre, le mettre en pratique, Seigneur, porter du fruit pour ta gloire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Le fondement pour expérimenter Dieu, on va regarder ça ensemble, mais juste ici, vous avez vu que, pour ça j'ai juste lu quelques versets, parce que les deux endroits ici, Jésus leur demande « Qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre, qu'est-ce qu'il dit? « Tu es. » Ok, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis après ça, Jésus plus tard a dit « Tu es Pierre. » Donc, c'est toutes des déclarations d'identité. Qui Jésus est et qui, à la lumière de ça, Pierre est, ou ce que Dieu lui donne comme identité. Ok, on va développer ça. Rappelez-vous, les deux premiers messages du mois de juillet, on a considéré Joseph. Donc là, on passe vraiment à une autre catégorie. Je veux dire, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on n'est plus avec l'histoire du début de la rédemption. Ici, on est avec Jésus dans les Évangiles et ici Pierre, qui, de la même manière que Joseph, par révélation, acquiert ou s'approprie l'identité que Dieu a pour lui. C'est pas lui qui s'est levé un matin et dit « Ah, moi, je vais être Pierre. Je vais être... » De la même manière aussi que Joseph, c'est pas dire « je vais avoir un rêve parce que mes frères, mes parents se prosternent devant moi ». Non, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui donne ces choses. Pour nous, c'est de les accepter. Donc, notre identité, elle est reçue. Elle n'est pas acquise par notre performance ou parce que nous on fait, mais c'est Dieu qui nous la donne. Et en fait, c'est ce qu'on va voir ensemble comme fondement pour expérimenter Dieu. Ça commence avec notre identité. Parce que pour expérimenter Dieu dans toute sa grandeur, sa beauté, dans toutes ses voies, il faut commencer par recevoir, par la foi, ce que lui dit de nous. D'abord, un enfant de Dieu, accepté, et ça, je parle ici à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Mais même plus que ça, qu'est-ce que Dieu a pour moi spécifiquement, pour ma vie? Parce que la Bible dit que nous sommes son ouvrage et qu'il a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, on n'est comme pas au hasard demain, laissé à là-bas comme je te pousse, au gré du vent. Mais Dieu qui a commencé en nous cette œuvre, il va aussi la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et donc, on va avoir le privilège ici, on va avoir une intrusion non seulement dans la vie de Jésus, mais aussi avec un des apôtres et le leader, Pierre. C'est vraiment lui qu'on va considérer à travers les deux prochains messages. Puis aujourd'hui, on va regarder trois étapes dans l'établissement du fondement pour expérimenter Dieu. Trois étapes. Si on veut là, avoir notre vie basée sur une expérience réelle de Dieu, voici le fondement. D'abord, ici dans les versets qu'on a, puis on va en lire un petit peu plus dans un instant, on a la révélation de l'identité. Je viens de vous le dire en gros, mais pour autant lui, ici Pierre, que Joseph avant, Dieu avait pour eux des positions de leadership. Il y avait pour eux des choses qui allaient les placer en autorité dans son plan rédempteur, okay, dans toute l'histoire de la rédemption. Pour Joseph, c'était avec toute la famille, puis l'affaire de Pharaon, vous connaissez l'histoire. Puis ici, mais c'est avec l'Évangile pour Pierre. Et je dirais, si on lit les versets suivants, on va voir quelque chose d'important. Recommençons notre lecture au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, voyez-vous, c'est Dieu qui a montré ces choses-là. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Puis l'endroit où est-ce qu'il était, il y avait l'endroit qui appelait le séjour des morts, là, ceux qui ne savaient pas, c'est là à Césarée de Philippe. Puis il dit au verset 19, Jésus continue, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, voyez-vous, il y a une autorité qui est reliée à l'identité que Dieu lui donne. Puis, ça souligne encore une fois que Dieu faisait une œuvre, mais comme avec Joseph, puis ici on le voit, le personnage principal, ce n'est pas Joseph dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Pierre ici, c'est Dieu dans la vie de Pierre. C'est ce que Dieu faisait. C'est lui qui voulait se servir de son enfant pour accomplir ses plans. Mais c'est tout lui qui, dans le fond, était mis de l'avant là-dedans. Et ce que Dieu faisait, c'est simplement lui donner une identité de laquelle allait découler tout ce plan-là de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église », les deux, c'est lui qui en prend l'identité, la possession. « Je bâtirai », c'est moi qui bâtis, puis c'est mon Église. Et c'est ça la base de l'identité de Pierre. Pierre reçoit une identité qui a rapport avec le projet de Dieu dans sa vie, mais bien au-delà. Donc, pour nous, notre identité, non seulement elle ne nous est pas donnée de nous-mêmes, mais elle a rapport avec ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ce n'est pas une identité qui, pour moi, juste ce que je veux faire. C'est ce que Dieu veut faire en moi, avec moi, à travers moi. OK? Et savez-vous, ça, c'était libérateur pour Pierre. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout à se casser la tête et essayer de déterminer comment il allait arriver à faire ça. C'est quoi ça veut dire, là, que je suis une pierre comme ça, puis qu'il y a des clés comme ça du royaume. Comment ça va se passer, tout ça? Dieu, il ne demande pas de tout expliquer ça, puis comprendre tout ça. Dieu va s'en occuper de tout ça. Mais j'aimerais vous donner un peu d'explication sur... On va faire un petit peu d'imagination sanctifiée. Moi, je pense qu'au moment où est-ce que Dieu dit ça à Pierre, probablement qu'il s'imaginait, « Hey, c'est cool ça, d'être Pierre. » Puis ceux qui ont vu la série Chosen, tu sais, il est un peu fier, puis là, il m'a appelé Pierre, puis tu sais, il y a un changement de nom, c'est significatif, puis tout ça. Fait que ça, c'était un peu le côté, on peut dire, glamour, puis « Oh wow, ok, je suis le leader de la gang », puis tout ça. Sauf que ce qui était moins cool, puis ce qu'il n'avait pas non plus vu d'avance, bien, c'est que ce leadership-là, cette porte que Dieu ouvrait, elle venait avec beaucoup de tribulations, de turbulences et de brisements. Pierre était prêt à comprendre qui Jésus est, mais il n'était pas prêt par rapport à l'œuvre que Jésus est venu faire. Puis pour ça, oh là là, ça a été toute qu'une époque dans la vie de Pierre. Heureusement, ça a été un passage, ça n'a pas été tout le reste de sa vie. Mais on sait comment ça a fini, il a pleuré amèrement. Ça a été dur. OK? Parce que Dieu était celui qui, dans la vie de Pierre, oui, voulait le préparer à tout ce que ça voulait dire, cet appel-là qu'il y avait sur sa vie. C'était unique et merveilleux, mais il y avait beaucoup d'implications. Puis là-dessus, j'aimerais qu'on comprenne, là. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous aime. Mais l'amour de Dieu est turbulent. C'est un amour turbulent. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est un amour qui va tout détruire, ce qui n'est pas de lui sur son passage. Tout ce qui nous sépare de Dieu, l'amour de Dieu va le détruire pour qu'on puisse vivre cet amour, bénéficier, jouir de cet amour. Ça veut dire que ça brasse, ça. Dieu aimait Pierre, puis il voulait faire une œuvre dans sa vie, il y avait des choses à briser qui étaient dans le chemin. Et j'aimerais vous dire que ça en vaut la peine parce que la rémunération est des grandes. Puis Paul de dire dans Philippiens, « Ainsi je connaîtrai Christ. » C'est qu'au bout du compte, ce qui ressort du fait d'avoir exercé ainsi par le brisement de Dieu, par l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est qu'on va découvrir notre Dieu, on va dire « Waouh, quel Dieu, fidèle, bon, toujours au rendez-vous. » Donc c'est ça la récompense, Dieu est la récompense. Donc c'est pas en vain, on découvre Dieu, on peut s'émerveiller de Dieu au bout de ce processus-là. Et ça c'est saint et c'est incomparable. C'est pas une religion, c'est pas une bebelle que les hommes ont inventée, c'est l'intervention divine dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs. C'est le Dieu vivant qui agit dans la vie de ses enfants. Et ça, mes amis, c'est un peu l'autre côté de notre identité en Jésus. Parce que oui, notre identité en Jésus nous donne, waouh, une nouvelle liberté. Une nouvelle liberté dans ma relation avec Dieu et avec les autres. Puis ça fait toute partie de ce qui est là, c'est merveilleux. Mais l'autre côté de la médaille qu'on voit ici, c'est qu'il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, c'est quoi? Bien, Jésus, il fait allusion un peu, après que Pierre a été repris, là, au verset 24, puis les suivants, Jésus, il dit, « Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. » Ses plans, ses pensées, ce que lui, il veut, c'est ça le prix, c'est, pour le dire dans les mots de Paul, dans Actes 20, 24, « Mais je ne fais aucun... je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est un prix, mais qui a toujours une récompense. Et elle est incomparable. Écoutez ce que Pierre, plus tard dans sa vie, a à en dire, parce que notre même Pierre, là, ici, on le voit là, quand même assez dans sa jeunesse, mais plus tard dans sa vie, dans 1 Pierre au chapitre 1, il écrit ceci. « C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant puisqu'il faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, Dieu, dans sa grande fidélité, a pourvu absolument à tout ce dont on a besoin et il nous donne une identité lorsqu'on est son enfant. Et pour nous, c'est le point de départ pour le fondement, la première étape, le fondement pour expérimenter Dieu. La deuxième étape, il faut qu'on aille dans Acte 2. Donc, on est encore avec Pierre, mais là, après le brisement, après que Jésus, comme il l'avait dit, là, il a été trahi, puis crucifié, puis tout ça. Là, on a un Pierre qui est restauré, mais ça continue toujours d'aller mieux, parce que là, on va avoir un Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. On ne va pas lire tout le chapitre, on pourrait lire le chapitre 2 au complet, mais on peut le diviser en deux. Il y a la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, puis sont remplis du Saint-Esprit. Puis ensuite, le discours de Pierre. On va juste lire un verset pour un peu comprendre ce qu'il y en a ici. Acte 2, verset 4. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Qu'est-ce qu'on voit là? On voit là un pattern qui est le renforcement de l'identité. Non seulement Dieu révèle l'identité, mais ici, il la renforce. Dans le fond, c'est simple. Ils ont à prendre un nouveau pattern qui est la continuité. Jésus avait fait les promesses, tout ça, puis il leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir sur vous, OK? Puis là, ici, il est venu tel que promis. Donc, ils sont appelés à découvrir et apprendre une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Et oui, c'est vrai pour nous autres aussi. Si Christ vit en nous, on a besoin d'apprendre notre relation avec lui, être à son écoute, à voir ce que lui veut nous enseigner à travers ce qu'il permet dans notre vie. Notre relation au Saint-Esprit et ce que Pierre et les autres ici, là, la compagnie apostolique puis les autres qui étaient là, ce qu'ils vivaient à ce moment-là et ce qu'ils apprenaient, c'est de vivre selon une nouvelle source. Ça, c'est la nouvelle alliance. C'était nouveau. Il était scellé du Saint-Esprit. C'est vivre à partir d'un autre. Et ça, c'est révolutionnaire. C'était pas comme ça avant. C'est la nouvelle alliance. Puis là, ça a été renforcé avec maintenant le Saint-Esprit vivant en eux. Et tout ce que nous autres, on peut connaître puis expérimenter comme enfant de Dieu, c'est 100% l'inverse de la vie naturelle, de la vie en dehors de Jésus-Christ. C'est ça, apprendre à vivre d'un autre, c'est contre-intuitif, on va appeler ça de même, à ce qu'on a appris toute notre vie, il faut être plus fort, il faut essayer plus fort. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement, la transformation, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On va faire un peu de pouce là-dessus, avec un passage que je vous lis de l'apôtre Jean, dans 1 Jean au chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ici, Jean a ce qu'on appelle un argument en cascade. Cloc, cloc, cloc. Okay? Une chose amène à une autre. Okay? Donc, il y a un point de départ. Il dit qu'il y a eu un dépôt de la part de Dieu. Vous avez reçu la parole de Dieu. Elle est en vous. Elle habite en vous. OK? On pourrait le dire comme dans Colossiens, la parole de Christ qui habite en nous dans toute sa richesse. Donc, ce qui est en nous, on l'a entendu et ça demeure en nous. C'est le point de départ. La parole, par l'esprit de vérité, Jésus la vérité, qui n'est pas là de façon passagère, mais comme on le voit ici avec la Pentecôte, qui maintenant demeure dans les enfants de Dieu de façon permanente. Puis ensuite, on a un « si ». Il continue ici, puis il dit « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Et ici, l'idée, il faut comprendre, 1 Jean est écrit pour que les gens sachent qu'on a la vie éternelle. Autrement dit, il est en train d'amener une marque d'authenticité d'un enfant de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, la parole, elle, demeure en nous. Fait que l'indicant qui dit ici, c'est comme la condition quand c'est réel, qu'on est vraiment un enfant de Dieu, que la parole demeure en nous. Mais c'est quoi la suite logique? Ben, ça nous dit, non seulement, c'est parce que ça part de la parole, l'évangile, mais aussi nous, on demeure dans le Fils et dans le Père. Donc, c'est une relation qui est permanente, qui est établie, qui est là dans la vie des enfants de Dieu. Puis pourquoi je vous amène ça? Parce qu'on parle du renforcement de notre identité. Non seulement Dieu nous révèle ce qu'on est en Jésus-Christ, mais ce que Jean ici nous enseigne, puis qui est pertinent par rapport à Acte 2 puis la suite, c'est que le test de la vraie vie chrétienne, là, selon ce qu'on vient de lire ici, c'est le but d'ailleurs de 1 Jean, c'est pas là d'expérimenter le spectaculaire, puis OK, la Pentecôte, c'est une affaire, boum, une journée de même, mais la vie chrétienne, c'est une continuité. C'est l'expérimentation constante du renouvellement du Saint-Esprit, de la vie de Christ en nous. Il y a une continuité qui est là. Et continuité, ce n'est pas à confondre avec stagnation, là, mais c'est-à-dire que le fait que Dieu continue son œuvre en nous comme ça, qu'il est fidèle. Puis l'idée, c'est de rester en position, rester assis, demeurer dans cet état de dépendance à Dieu, de ses vérités qui sont en nous, dans toute sa richesse. Vérité comme l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, qu'on est ses enfants, que celui qui est en lui, cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. De notre union avec Christ est la croix. Ce n'est plus moi, on vient de le chanter, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une réalité stable, sûre, sur laquelle je peux fonder ma vie. Que sa grâce, elle est toujours suffisante, peu importe ce que Dieu me permet. Je peux même me glorifier dans mes faiblesses parce que c'est comme ça que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie. Et donc, l'idée, c'est que comment Dieu va renforcer notre identité, c'est quand ça devient, je voulais dire, une seconde nature, mais c'est notre nouvelle nature en Jésus. Quand ça fait partie de nous-mêmes, quand on fait un avec ça, que vraiment, moi, je peux m'identifier, pas avec ma performance, ce que je fais pas, mon passé, mais ce que Dieu a fait de moi. Ça, c'est ce que je suis. Je suis le produit de la grâce de Dieu. Puis pour vous aider, je vous amène, OK, des fois on parle des fois de des versets, puis on n'est pas toujours clair sur ce que ça peut vouloir dire. Paul parle, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. » Ou dans Philippiens, ça dit « Ayez en vous les mêmes sentiments, la même attitude, la même pensée qui est en Jésus-Christ. » Philippiens 2:5. Mais c'est quoi ça veut dire, avoir la même pensée que Jésus? C'est quoi ça veut dire d'être imitateur de Jésus? Ça ne veut pas dire que ferait Jésus à ma place. Ce n'est pas une imitation extérieure. Ce n'est pas une imitation de performance. C'est une imitation de pattern. Jésus, il dit, dans Jean 5, il dit à deux reprises, il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je vois au Père, je le fais. Jésus avait cette dépendance. Et pour nous, c'est la même chose. Avoir les mêmes sentiments qu'est en Jésus-Christ, c'est reconnaître que nous sommes totalement dépendants de Dieu. Puis que si on veut faire quoi que ce soit d'éternel puis d'une valeur durable, ça ne sera pas nous, ça va être Christ en nous. Cette dépendance qui nous est enseignée par Jésus lui-même, la kénose, Jésus qui est venu vivre une vie totale de dépendance. Et prenons l'exemple ici de Pierre, parce que là, bon, Saint-Esprit est venu, il y a les gens qui ont toutes eu cette réaction-là, qu'est-ce qui se passe, on entend parler dans les langues de nos pays, puis là, ils prêchent tout qu'un sermon, puis après ça, il y a toutes les gens qui se convertissent. Je pense qu'au bout de la journée, là, il a dit « Ouf, grosse journée aujourd'hui », n'est-ce pas? Puis, je crois que, tu sais, lui qui est Pierre, il est celui qui avait cette clé-là, okay, qui a ouvert l'Évangile aux Juifs, qui était là, venu adorer à Jérusalem, ben, il pouvait, notre cher Pierre, expérimenter le repos du cœur, ou pour le dire dans les mots de son futur compatriote Paul, qui dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Pierre pouvait expérimenter ça. Il pouvait expérimenter le fait que, wow, c'est Dieu qui agit comme ça à travers moi. C'est pas moi, c'est pas Pierre avec toutes ses bonnes intentions comme en sortant l'épée pour couper l'oreille du serviteur. Non, c'est Dieu. Puis la vie chrétienne, selon le plan de Dieu, selon la nouvelle alliance, selon ce qu'on voit ici, initié à la Pentecôte, c'est vivre comme ayant pour source Dieu lui-même. C'est vivre de l'arbre de vie et de refuser de dépendre de notre chair. La grâce de Dieu, la vie de la grâce, la vie par l'arbre de vie, cette vie-là de Galates 2:20, écoutez bien, c'est pas opposé aux efforts, ça veut pas dire que je fais rien, mais c'est opposé au mérite. Parce que, comme je vous dis, il a mis tout son cœur, là. Tu sais, on peut pas lire toute l'intensité, mais je pense que connaissant Pierre, il devait pas... Ouais, vous avez crucifié Jésus, puis tu sais... Je pense que vous connaissez un peu Pierre, d'après les Écritures, il devait tout être dedans, puis pour moi, il était rouge tomate, je sais pas trop, là, mais en tout cas... Puis, OK, il s'est complètement donné, il a mis tous ses efforts, mais il avait pas le mérite, parce que c'est Dieu qui agissait en vie. Puis lui, il savait très bien, parce que quand on va voir la semaine prochaine aussi, le Pierre du livre des Actes versus au Pierre des Évangiles, c'est littéralement deux hommes différents. C'est un qui veut tout essayer fort, puis il est tout sincère, puis l'autre qui s'est rendu compte, non, c'est pas moi, c'est Christ qui vient en moi. Fait que je vais mettre tout mon effort, mais c'est pas l'idée de par mes mérites, mais par ceux de Christ qui vient en moi. Et c'est ça tout le concept du Nouveau Testament qu'on a du repos. Oui, c'est fatigant des fois la vie chrétienne. Je veux dire, se donner, avoir compassion, puis écouter, je veux dire, ça nous semble la zone de confort. Mais on se repose en Christ. Puis ironiquement, c'est là que s'opère justement le renforcement de notre identité. C'est lorsque Dieu avec ce qu'il permet dans nos vies, nous renforce dans sa grâce comme ça, puis il dit, voici, ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui, c'est ce que je fais avec toi, c'est le pattern. Tu as dépendu de moi, tu te réjouis en moi, de ma grâce suffisante, c'est comme ça la vie avec moi maintenant. Et là, ça va plus loin parce qu'on arrive à la troisième étape. Non seulement il y a la révélation, non seulement il y a le renforcement, mais on voit dans la deuxième partie du chapitre 2 des Actes, la propagation de cette identité-là. Et vous savez, c'est le fameux sermon, à partir du verset 14, c'est le fameux sermon de Pierre, ça dit au verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Puis là, le premier sermon de l'histoire de l'Église qui est donné par Pierre. Ce sermon de Pierre a été prêché avec la puissance puis l'autorité de celui qui avait reçu cette identité d'être, celui qui ouvre les portes. C'est la première fois que c'est servi de sa clé, on va dire ça de même. OK? C'est pas la dernière, mais vraiment, il ouvrait la porte du royaume aux Juifs qui étaient là. Puis il y en a 3000 qui sont rentrés. OK? Quand même quelque chose, là. Pierre a simplement exercé l'identité et l'autorité qui lui étaient déléguées. Il pouvait le faire avec assurance parce que c'était pas son idée, c'était pas son initiative, c'était Dieu. Et ça, c'est important à comprendre. Il y a des mouvements chrétiens qui vont tellement fort sur l'autorité que l'on devient « name it and claim it », puis là, ils se donnent une autorité qui ne leur est pas donnée. Mais il faut prendre, par contre, l'autorité qui nous est donnée. Si Dieu nous a dit « t'es mon enfant », puis t'as une identité qui te place au-dessus, en Jésus-Christ, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, bien, prends cette autorité. Elle vient pas de toi, elle vient de celui en qui tu es, en Jésus. Et ça, c'est par la foi qu'on l'accepte, parce qu'on peut aussi avoir une fausse humilité, de dire « Ah, oh, je suis un bon rien, je suis pas bon, je suis pas capable. » C'est vrai que par nous-mêmes, on est faible. Mais en Christ, on peut tout par celui qui nous fortifie. Et donc, Pierre a exercé cette autorité qui lui a été déléguée pour proclamer clairement puis puissamment la personne et l'œuvre de Christ. Les deux choses qu'on a vues dans Matthieu 16. Que Jésus est le Christ, puis qu'il est venu pour mourir pour les pécheurs. Et c'est là où réside toute son autorité dans le domaine spirituel. C'est Christ et Christ crucifié, comme Paul le dit plus tard dans Galates 6,14. Le résultat, ça appartient à Dieu. Mais Dieu a décidé cette journée-là. 3000! Ah, c'est beaucoup de monde, là. Je sais pas, dans un building. 3000, en tout cas, c'est une bonne quantité de monde. Peut être baptisé, puis tout ça. En tout cas, ça brassait cette journée-là à Jérusalem. Mais savez-vous quoi? Pour Pierre, lui, sa part, c'était pas de sauver les 3000, puis tout ça. Sa part, c'était d'être disposé. OK, Dieu? Je suis ouvert. Puis Dieu, ce qu'il voulait, c'est qu'il proclame Christ. Il l'a fait, puis Dieu a amené les résultats qui vont avec. Notre plus grande habileté, c'est notre disponibilité. C'est tout ce que Dieu nous demande. Qu'on soit disponible, ouvert, pour qu'il puisse nous utiliser comme lui le veut bien. Et ça l'a certainement confirmé, validé l'approbation divine, que son message était approuvé de Dieu parce qu'il y a eu des résultats surnaturels, 3000 conversions. Et ça m'amène à un point important. On n'a pas besoin de manipuler dans l'œuvre de Dieu. Savez-vous que c'est un grand piège, spécialement à partir d'un pupitre comme ça, de manipuler pour des résultats? Bon, peut-être avoir des résultats, mais ça va-tu être les nôtres ou ça va être ceux de Dieu? Parce que on ne doit pas être gêné de proclamer tout le conseil de Dieu puis de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Mais l'œuvre de conviction, les résultats puis ce qui va en ressortir, ça appartient à Dieu. Pierre n'a pas mâché ses mots, là. Il même leur a dit « Vous l'avez crucifié ». Je veux dire, il était droit au but, là. Mais c'est Dieu qui a amené la conviction. Quand ça dit qu'il était vivement touché, l'idée, c'est qu'il y avait comme le cœur transpercé. La parole, elle a transpercé à travers leur cœur dur. Puis il a dit, « Hommes, frères, que ferons-nous? » C'est Dieu qui faisait cette œuvre-là dans leur cœur. Oui, Pierre est un instrument, mais le vrai travail, c'est Dieu qui le faisait. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Puis en fait, quand on utilise la manipulation, que ce soit avec des proches, que ce soit avec des groupes, des personnes, la manipulation ne va juste que nuire à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une tendance forte de quelqu'un de convaincu, homme, femme, vieux, jeune, d'essayer de manipuler pour avoir des résultats. Mais comme je vous dis, c'est quoi les résultats? Si je manipule, je vais avoir mes résultats, mais je n'aurai pas la conviction de Dieu. Ça m'amène à ce point-ci. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour les résultats? Est-ce que si je proclame la vérité, la personne et l'œuvre de Christ, est-ce que je suis capable de faire confiance que Dieu est capable de prendre ce matériau brut pour construire ce que lui veut faire? Ou j'ai besoin de l'aider un peu? Non, je pense que Dieu me demande de faire ma part, de proclamer sans gêne, et avec une pleine hardiesse, mais de laisser les résultats. C'est une question de confiance. C'est vraiment une question de confiance. Et j'aimerais ça conclure. On a regardé tantôt 1 Jean au chapitre 2. Je vous relis le passage que j'ai lu tantôt. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Ça nous amène deux concepts qu'on a vus dans le mois de juin, dans le mois de juillet. Les « que » de la Bible, hein, les « lettres » et le « t », puis « demeurer ». Hein, on a vu ça à travers les messages. Ben là, j'aimerais un peu boucler la boucle, si vous voulez, avec ça. Comme c'est amené, les deux sont ici dans 1 Jean chapitre 2. Le « que », OK, du début, là, ça dit « que » ce que vous avez entendu, OK. Le « que » ici, ça a rapport avec notre décision d'ouvrir la porte à Dieu. Dieu, ta parole veut qu'elle demeure en moi dans toute sa richesse. Vous savez, quand on lit, OK, la fameuse dévotion chrétienne, je vais faire un petit éditorial là-dessus. Des fois, là, on va calculer notre vie chrétienne. OK, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui parce que j'ai eu mon temps dans la parole. Puis je vais être délicat parce que je veux dire, c'est important de passer du temps à parole, mais la mesure de Dieu, c'est pas moi qui est dans la parole, c'est la parole qui est en moi. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Fait que je peux prendre mon petit temps dans la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu n'a pas son accès à mon cœur. C'est ça l'idée, c'est pas juste un livre que je lis, c'est un livre qui me lit. Fait que tu sais que je suis au vent, OK, Dieu, là, j'ouvre ta parole puis je me mets vulnérable. Dis-moi des affaires, n'importe quoi. J'ai besoin d'être confronté peut-être, j'ai besoin d'être réconforté. Dieu, tu sais ce que j'ai besoin. Lis-moi, puis que cette parole demeure en moi, dans toute sa richesse, pas juste un petit peu, la plénitude de Christ en moi. OK? Donc, Dieu, j'ouvre la porte. C'est ça l'idée, là, quand on s'arrête avec la parole. Dieu, j'ouvre la porte. À toi, qui est la vérité, qui est la grâce de Dieu. Puis là, l'idée de demeurer, ben c'est simplement de dire, arrête ouverte ma porte. Dieu, fais comme chez vous. Mi casa y su casa. Vous connaissez l'expression? Ma maison est ta maison. C'est une expression que les Espagnols utilisent, puis nous on dit, fais comme chez vous. Dieu, ma porte, reste ouverte. Demeure. Tu peux venir quand tu veux, tu peux me déranger, tu peux me... Je veux demeurer dans cette expérience de dépendre de toi, de Christ qui vit en moi. Et on peut se poser la question, comment je vois ces choses-là en ce moment par rapport à ouvrir la porte à Dieu puis la laisser ouverte? Dieu, que ta parole demeure puis qu'elle demeure pleinement en moi. C'est quoi ma relation, non seulement à la parole de Dieu, mais au Dieu de la parole, au Dieu qui veut se révéler à moi. Puis comme on le voit avec Pierre dans le chapitre 16, des fois ça fait mal, des fois ça nous sort de où ce qu'on voudrait rester, puis ça nous amène où ce qu'on ne voudrait pas aller. Ça, c'est la réalité dure de la vie par la foi. C'est pas, « Ah, c'est Dieu dans ta vie, tu n'auras plus de problème, comptes en banque vont déborder, l'auto ne brisera jamais, puis toutes tes relations vont aller bien, sinon tu n'as pas de foi. Ça, c'est un autre évangile en passant, puis c'est pas... C'est l'évangile de la prospérité, puis c'est pas un évangile, c'est un autre évangile, parce que, en fait, la Bible nous promet des tribulations. Jésus a dit, vous allez en avoir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous promet la victoire dans les tribulations, mais il dit pas, vous n'aurez pas. Il dit, je vais être avec vous, tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Mais on va avoir part aux souffrances de Christ. Maintenant, la question, c'est est-ce que je suis prêt à laisser la porte ouverte à Dieu? Puis pour ça, je pense qu'une bonne façon de le savoir, c'est qu'est-ce que Dieu... Si je laisse la porte, là, Dieu me dit des affaires. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me révèle à mon cœur en ce moment? Peut-être que quelqu'un ne connaît pas Jésus comme son sauveur. Est-ce que Dieu te révèle Jésus à ton cœur pour le recevoir comme ton sauveur? Ou peut-être que si on est un enfant de Dieu, Dieu veut nous révéler, « Hey, ton standing avec moi, ce n'est pas selon ta performance, c'est selon ma performance. Ce n'est pas selon ce que toi, tu réussis à garder dans ta liste de to-do, liste à faire, mais c'est ce que moi, j'ai fait de toi, puis ce que je dis de toi. » Puis ça, mes amis, ça fait tellement différent. Savez-vous quoi? Notre identité en Christ, ce n'est pas par notre performance, c'est par notre naissance. Comme moi, je suis né dans une famille... J'ai mon appartenance physique à une famille physique. Et notre appartenance avec Dieu, notre identité, c'est avec notre nouvelle naissance. On n'est plus en Adam, on est en Jésus. C'est ça notre identité. Et Dieu veut renforcer ça, ces vérités qu'elles deviennent nôtres. Que vraiment on soit solide là-dedans, inébranlable. Que Dieu puisse accomplir ces choses en nous. Puis qu'on puisse s'encourager ensemble dans le Seigneur, dans ces choses extraordinaires, du fait que Dieu veut qu'on expérimente tout ce qu'il est. Il est grand, il est bon. Puis aujourd'hui, on a vu le fondement, qu'on accepte ces choses par la foi. Seigneur, je te remercie ce matin qu'on a pu s'arrêter comme ça ensemble. Puis, que je me sens malhabile à communiquer des si grandes vérités. Puis, Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Toi, tu l'es, Seigneur. Puis merci, oui, que c'est toi qui parles à tes enfants. C'est toi aussi qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et Seigneur, je te prie pour du fruit éternel, des choses qu'on considère aujourd'hui. Du fait que tu nous révèles, lorsqu'on est ton enfant, notre identité, que tu la renforces et que aussi tu la propages. Merci pour ces vérités salutaires. Seigneur, ton peuple ici répondu, rassemblé, est appelé à répondre. Et aussi ceux qui ne sont pas sauvés encore sont appelés à répondre à l'Évangile, la bonne nouvelle. Et nous aussi, ton peuple, l'Évangile aux saints. Non seulement que Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec Christ et vivants en toi. Seigneur, je prie pour une réponse de la foi qui va porter du fruit à ta gloire. Oui, Seigneur, non pas à nous, mais à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.